ce nouveau numéro de L'écume des pages, nous vous proposons une rencontre avec Boualem Sansal autour de son dernier roman, 2084, La fin du monde, paru chez Gallimard en automne dernier. Cet entretien sera entrecoupé de la lecture de deux passages, L'Incipit, ainsi qu'un extrait du livre 4. Bonne écoute à tous.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Patty avait perdu le sommeil. L'angoisse le saisissait de plus en plus tôt. À l'extinction des feux et avant même, lorsque le crépuscule déployait son voile blafard et que les malades, fatigués de leur longue journée d'errance, de chambrée en chambrée et de couloir en terrasse, commençaient à regagner leur lit en traînant les pieds, en se lançant de pauvres vœux de bonheur pour la traversée nocturne. Certains ne seraient pas là. Yola est grand et juste. Il donne et reprend à son gré. Puis, la nuit arrivait. Elle tombait si vite dans la montagne qu'elle désarçonnait. Tout aussi abruptement, le froid se faisait ardent et vaporisait la laine. Dehors, le vent rôdait sans répit, prêt à tout. Les bruits familiers du sanatorium l'apaisaient un peu, même s'ils disaient la souffrance humaine et ses alarmes assourdissantes ou les manifestations honteuses de la mécanique humaine. Mais il n'arrivait pas à couvrir le Borkboring fantomatique de la montagne. Un lointain écho qu'il imaginait plus qu'il ne l'entendait, venant des profondeurs de la terre, chargé de miasmes et de menaces. Et cette montagne de loua aux confins de l'Empire l'était, lugubre et oppressante, autant par son immensité et son aspect torturé que par les histoires qui couraient dans ses vallées, et remontait au sanatorium dans la foulée des pèlerins qui, deux fois l'an, traversaient la région du Cygne, faisant toujours un crochet par l'hôpital, quêtant chaleur et pitance pour la route. Ils venaient de loin, des quatre coins du pays, à pied, déguenillés et frais, fiévreux, dans des conditions souvent périlleuses. Il y avait du merveilleux, du sordide et du criminel dans leurs récits sibyllins, d'autant plus troublants qu'ils les disaient à voix basse, s'interrompant au premier bruit pour loucher par-dessus leurs épaules. Comme tout un chacun, pèlerins et malades ne manquaient jamais d'être attentifs. Dans la crainte d'être surpris par les surveillants, peut-être les terribles V, et dénoncés comme macoufs, propagandistes de la grande mécréance, secte mille fois honnie, Atti aimait le contact de ces voyageurs au long cours, le recherchait. Il avait amassé tant d'histoires et de découvertes au cours de leur pérégrination. Le pays était si vaste et si totalement inconnu qu'on aurait voulu se perdre dans ses mystères. Les pèlerins étaient les seules personnes autorisées à y circuler, non pas librement, mais selon des calendriers précis, par des chemins balisés qu'ils ne pouvaient quitter, jalonnés de haltes plantées au milieu de nulle part, des plateaux arides, des steppes sans fin, des fonds de canyons, des lieux dits sans âme, où ils étaient comptés, divisés en groupes, comme les armées en campagne qui bivouaquaient autour de mille feux de camp dans l'attente d'un ordre de rassemblement et de départ. Les pauses duraient si longtemps, parfois que les pénitents s'enracinaient dans d'immenses bidonvilles et se comportaient comme des réfugiés oubliés, ne sachant plus trop ce qui la veille nourrissait leurs rêves. Dans le provisoire qui dure, il y a une leçon. L'important n'est plus le but, mais la halte fut-elle précaire ? Elle offre repos et sécurité, et ce faisant, elle dit l'intelligence pratique de l'appareil et l'affection du délégué pour son peuple. Des soldats apathiques et des commissaires de la foi tourmentés et vifs comme des suricates se relayant le long des routes, en des points névralgiques pour regarder passer les pèlerins avec l'idée de les surveiller. On ne sache pas qu'il y ait eu un jour une évasion ou une chasse à l'homme. Les gens allaient leur chemin, comme on leur disait, ne traînant les pieds que lorsque la fatigue les gagnait, et commençaient à éclaircir les rangs. Tout était bien réglé et finement filtré. Il ne pouvait rien advenir hors la volonté expresse de l'appareil. On ne sait pas les raisons de ces restrictions. Elles sont anciennes. La vérité est que la question n'avait jamais effleuré un quelconque esprit. L'harmonie régnait depuis si longtemps qu'on ne connaissait aucun motif d'inquiétude. La maladie et la mort elle-même, qui passaient plus qu'à leur tour, étaient sans effet sur le moral des gens. Yola est grand et Abby est son fidèle délégué.
Bonjour, nous sommes en compagnie de Boualem Sansal, donc, qui est invité à Lyon dans le cadre des Assises internationales du roman. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes romancier et essayiste, vous venez d'Algérie, mais en réalité, le fait que vous veniez d'Algérie n'est pas forcément une manière de vous définir, puisque vous êtes un écrivain, on pourrait dire, mondial, dans le sens où vous touchez à des thèmes qui sont d'actualité et qui sont... et qui sont toujours présents dans nos sociétés. Donc à savoir, pour le cas de votre dernier roman, 2084, la fin du monde, qui est un roman qui semble parler de l'obscurantisme religieux, où vous imaginez un monde déterminé justement par des croyances religieuses et politiques, fondées autour de la figure de Yola et du prophète Abi. Évidemment, ces dérivations sont assez proches d'autres, d'une religion que tout le monde connaît bien. Et donc, vous parlez d'une société, d'une forme de dictature qui est fondée sur la maîtrise totale de l'être humain à travers l'anéantissement de la notion même d'humain. Et peut-être aussi, ce qui m'a le plus choqué dans le monde que vous décrivez, l'absence totale d'amour. Alors, je voudrais vraiment vous poser une première question par rapport à cette absence d'amour. Est-ce que, justement, l'absence de la possibilité de l'amour au sens d'une jouissance personnelle qui passerait de l'intime et qui, de fait, donnerait un équilibre au collectif et qui permettrait aux êtres d'exister, est-ce que tout ça n'est pas annulé, justement, parce que les corps, comme vous le dites à plusieurs reprises dans votre roman, pourraient devenir des machines, ne plus penser?
Alors, vous avez fait... Je pourrais faire beaucoup de remarques sur ce que vous venez de dire, hein, parce que vous lisez le livre avec des critères d'aujourd'hui, enfin, des critères qui sont les nôtres, ceux qui fondent la société démocratique moderne. Quand vous dites d'écrire que 2084 décrit un univers d'ignorance, oui, pour nous, c'est un univers d'ignorance. Mais pour ceux qui vivent là-dedans, c'est un univers de bonheur et d'intelligence. Évidemment, tout est relatif. Hein. C'est comme... on pourrait dire que l'univers de la fourmilière est un univers absolument incompréhensible, absurde, terrifiant. Mais si on posait la question aux fourmis, elles vous diraient que c'est un univers d'une grande intelligence et où il n'est question que d'amour et d'entraide entre nous. Et c'est votre regard sur nous. Alors moi, quand j'ai essayé d'imaginer ce monde-là, donc je l'imagine construit, et j'ai essayé autant que possible, et ça a été très difficile, j'ai conscience que j'ai pas réussi, de le regarder avec des yeux sans jugement de valeur. Voilà, c'est-à-dire que par un coup de baguette magique, je suis transporté en Abistan, et je vois que les gens vivent comme ça. Alors je ne sais pas s'ils sont heureux, pas heureux, ils font des choses. C'est comme je vais, je ne sais pas, à Moscou, je vois les gens vivre comme ça. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Ils mangent avec la main gauche, alors que nous, on mange avec la main droite. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Et ils mangent avec la main gauche, point, c'est un constat. Donc j'ai essayé de... Alors évidemment, c'est très difficile. De temps en temps, je me surprenais à émettre des jugements. C'est absurde. Donc c'est la difficulté quand on fait d'une... Quand on décrit une situation et qu'on... Et au lieu de la regarder donc le plus objectivement possible, on y entre avec nos critères, avec notre façon de voir le monde, et donc on a un jugement évidemment qui est faussé là-dessus. L'amour, alors pour revenir donc comme vous dites à une religion et à un prophète que nous connaissons par ailleurs sans les nommer. Oui, il n'y a pas d'amour, parce que l'amour est entièrement dédié au Dieu. Quand vous vivez dans un système religieux où il vous est ordonné depuis la naissance, toute votre éducation vous formate de cette façon-là, à n'aimer, à consacrer toute votre affection, tout votre amour, toute votre adoration, vénération à Dieu, eh bien, ils restent évidemment pour le reste, ils sont comme vous, ils adorent Dieu aussi. Mais quand même, il y a. Les gens se reconnaissent entre eux une relation, comme dans l'univers musulman, on dit nous sommes frères. Et tous les musulmans se considèrent, encore que frère est une notion, on va dire, quasi animale. On est membre de la Oumma. La Oumma islamique, vous savez, c'est la famille islamique. Donc on est des éléments de la Oumma. Et notre raison d'être sur Terre, c'est l'adoration et la vénération d'Allah. C'est pas comme dans le christianisme où la leçon de base, c'est aimez-vous les uns les autres pour pouvoir aimer Dieu. C'est un autre discours. Là, on dit oubliez-vous les uns les autres et n'adorez, ne vénérez que Dieu. Donc c'est une autre. Voilà, pour nous, c'est évidemment difficile, mais c'est comme ça. Donc, moi, j'ai voulu décrire un univers religieux qui fonctionne comme ça, donc je le décris comme ça.
Et donc, justement, on va revenir sur ce monde gouverné par l'obscurantisme religieux, et vous démontrez vraiment point par point, au fur et à mesure des pages de votre livre, comment l'engrenage fonctionne dans tous les éléments de la vie quotidienne, dans l'organisation, dans ce que les gens mangent, dans les activités que les gens ont en dehors de leur travail, qui est aussi entièrement dédié à la communauté de l'habitant, et aussi finalement comment toute forme de questionnement en dehors du questionnement religieux est complètement évincée, du moins ne peut pas exister dans l'état présent où les gens se trouvent. Et moi, je me demandais vraiment, alors, une question vraiment toute simple, si vous avez écrit ce livre, est-ce que c'est parce que vous considérez que l'obscurantisme religieux pourrait être l'anéantissement même de l'espèce humaine, en tout cas de l'espèce humaine pensante?
Oui. Oui, je le pense, oui. Nous sommes censés réaliser un dessein religieux qui ne nous est pas explicité. Dans quasiment toutes les religions, on nous ordonne donc d'adorer, de vénérer une divinité et d'obéir à ses commandements de manière permanente, sans jamais faillir. Et puis il y a, et autour de soi il y a des systèmes de coercition qui, à chaque fois que vous sortez vous n'appliquez pas les principes exactement comme vous les a renseignés, et ben vous recevez un coup, voilà, vous êtes puni, vous êtes, et à la limite vous êtes même excommunié, vous êtes etc. Et dans ce système-là, évidemment, c'est poussé à l'extrême. Vous êtes complètement. Mais ça, c'est la logique de ce type de système. C'est-à-dire que il va jusqu'au bout, jusqu'à la folie. C'est-à-dire qu'il vraiment, il détruit en vous toute votre humanité. Vous n'êtes plus qu'un instrument d'une croyance. Un symbole, un élément, et toute votre vie, vous êtes là-dedans. Alors, est-ce que vous êtes heureux là-dedans, pas heureux, on ne sait pas trop. Moi, je vois dans l'univers que je connais, chez les islamistes et tout ça, qui sont des fous, de ce qu'on appelle les fous d'Allah, qui sont 24 heures sur 24 là-dedans. Ces notions de bonheur, pas bonheur, ça n'a pas beaucoup de sens pour eux. Ils ont l'air satisfaits, en tout cas. Ils disent, tu dis, mais Voilà, j'adore Allah. Voilà, c'est comme ça. Il faut le faire. Je le fais. Je suis bien en faisant cela. Je suis bien avec moi-même. Je suis en accord avec. Nous, on a du mal à comprendre cela, mais bon, c'est le principe de, c'est le principe totalitaire et qui peut plus s'arrêter parce que il est obligé de d'occuper comme l'air de. D'occuper tout l'espace qui. S'il reste un petit espace où la coercition ne s'exerce pas, vous pourrez vous échapper par ce trou-là. Donc voilà, cerné complètement. Et c'est une machine qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle vous broie totalement, vous n'existez plus. Et peut-être qu'à ce stade, vous atteignez le nirvana aussi, hein, l'être humain, comme le bonze qui se met dans la position du lotus, qui subit des souffrances physiques évidemment effroyables, la faim, la soif, la posture figée comme ça, qui devient très douloureuse, et puis qui fait le vide dans son cerveau et qui reste comme ça des jours, des heures, des mois, toute la vie. Est-ce qu'à un moment donné, il a conscience qu'il est en train de gâcher sa vie sur une hypothèse ? Est-ce que réellement, Bouddha, truc, est-ce que le nirvana existe et tout ? Mais il le fait parce qu'il est... alors là, on a développé des théories, c'est-à-dire que, comme on n'arrive pas à comprendre en cela, on se dit, je pense qu'à partir d'un certain stade, la coercition, la dictature agit comme une drogue. C'est-à-dire que le bonhomme, c'est comme les vieux militaires qui ont toute une vie d'obéissance, faisant toujours les mêmes gestes, garde à vous, fixe, droite, etc. Toute sa vie, il est dans une vie très schématique et très simple, hein, dans la caserne. Le jour où on le libère, ou comme un prisonnier qui est condamné à 30 ans de prison, puis un beau jour, on lui dit « tu es libre ». Mais il ne sait pas vivre dans la liberté. Il ne veut pas sortir. Je ne peux pas vivre dehors. On m'a toujours servi à manger. Je suis dans ma petite cellule. Je me suis fait ma petite vie. Je ne pense à rien. Je suis là. Je suis bien. Et donc là, il y a comme une sorte de drogue très, 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 très étrange. Dans le cas, par exemple, des otages et tout ça, on lui a donné un nom, ça s'appelle le syndrome de Stockholm, où à un moment donné, le gars qui est torturé par son geôlier, son ravisseur, qui l'humilie matin et soir, qui le frappe, qui lui crache dessus, qui le traite comme rien du tout, et il le diminue tellement, à partir au-dessus d'un certain seuil, il y a quelque chose qui se produit, c'est-à-dire que le bonhomme entre quasi dans une sorte d'extase, et dans son humiliation quasi religieuse, il est là, c'est Jésus sur lequel les gens crachent, et puis on le mène au gibet, il s'exalte, et puis commence à être amoureux de son ravisseur. Donc, on ne sait pas ce qui se passe et moi, pour avoir vécu ces choses-là dans mon pays, en voyant des gens au début, c'était des gens normaux, comme vous et moi, ils vivent leur vie normalement, ils ont des désirs, des besoins, des aspirations, ils rentrent en religion. Au départ, il abandonne plein de choses, hein. Il est heureux, c'est l'esprit du sacrifice, il abandonne le foot, il abandonne le truc, et ses copines, ses copains, et tout, et tout. Mais à un moment donné, on voit bien qu'il est dans la douleur. Parce que là, c'est tout le jour. Il se réveille à 4h du matin, il est à la mosquée, truc, et ci, et ça, et on voit bien qu'il est dans la souffrance. Et à un moment donné, hop, on le voit transfiguré. C'est-à-dire qu'il a atteint le point où ce monde qui le torture, qui l'écrase, eh ben, il le met dans un état d'extase et de jouissance. Et là, il devient... il y a comme de la lumière sur son visage. Et il est prêt à mourir, il est prêt à exécuter n'importe quel ordre et à trouver du plaisir dans l'exécution de n'importe quel ordre. On est dans des univers qui échappent à notre raison complètement. Et ça, pour l'écriture, c'est très difficile, parce que je devais rendre compte de cela. Mais en même temps, moi, je fais pas aussi la promotion de ça. Donc je suis obligé à un moment donné de dire quand même, attention, voilà, eux, ils vivent comme ça, mais attention, c'est quand même pour nous, c'est absurde. Et, voilà.
Mais justement, il y a un personnage, plusieurs personnages, dont un dont on suit le parcours tout au long du roman. D'ailleurs, l'histoire commence par la pensée qui pourrait exister à un autre monde dans sa tête, et peut-être le fait qu'il découvre qu'un autre monde existe, qu'un autre monde est possible. Et donc c'est le personnage d'Abby.
Ati,
qui va finalement essayer de conquérir son espace de liberté, qui va essayer sans vraiment le vouloir fortement déjouer toute la manipulation qui peut y avoir, qui va se mettre à penser par lui-même, et qui va surtout évidemment c'est on vous dit que vous jugez pas, mais on sent quand même dans la manière dont vous traitez votre personnage que ce que vous jugez de ces personnages, de ces gens, c'est leur impuissance. D'ailleurs, c'est pas un jugement de juger une impuissance, c'est une constatation.
Oui, absolument. Alors, l'idée est celle-ci, c'est que quand on est pris dans un système et qu'à un moment donné, on commence à soupçonner que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le seul monde, qu'il y a autre chose. Mais autre chose, quoi? C'est ça la grande difficulté. Le monde qui est le nôtre, nous le voyons. Nous vivons dans ce monde-là depuis des siècles, des millénaires. On a fini par apprendre... Et nous-mêmes, on ajoute un peu à la connaissance qu'on a de ce monde au cours de sa vie. Mais on soupçonne un autre monde. Alors on l'appelle au-delà, on l'appelle ce que vous voulez, ou un autre monde qui serait, je ne sais pas, dans l'espace intersidéral. Mais c'est quoi ce monde? Existe-t-il réellement? Et c'est la grande difficulté. Alors on essaie de se convaincre par des raisonnements. On dit, mais c'est pas possible. C'est comme la question que nous nous posons, nous. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Pour le moment, depuis des millénaires et des millénaires, apparemment, nous n'avons pas vu qu'il existait d'autres créatures que nous, créatures pensantes. Sinon, elles seraient venues, on envoyait des messages partout. Il y a le réel, le silence. Mais on reste quand même dans l'idée que ce n'est, c'est par le raisonnement mathématique qu'on arrive à nous convaincre que le monde existe. Mais c'est pas possible que la probabilité qui a créé l'humanité, la Terre et l'humanité, ne se soit réalisée qu'ici. Elle a dû se réaliser sur d'autres galaxies, d'autres planètes. Mais on n'a pas accès à ce monde et on ne sait pas comment il est. Et donc, Ati est dans cette situation. À un moment donné, des tas de petites choses. D'abord, c'est parce qu'il arrive dans un salle de taureau, mais il voit des gens qu'il n'a jamais vus. Il y a des gens qui sont jaunes, qui sont noirs, qui sont... Alors que lui, il était dans son quartier. Il n'est jamais sorti de son quartier parce que c'est interdit. Il n'a jamais vu que des gens qui lui ressemblent. On va imaginer un Lyonnais qui n'est jamais sorti de Lyon, qui ne voit que des Lyonnais, qui parle avec le même accent, les mêmes phrases, les mêmes trucs. Et puis, un jour, on le jette, je sais pas, là-bas, en Mandchourie. Au téléphone. Et évidemment, il est perturbé, et donc du coup, ça détruit son univers. Parce qu'il se dit, si ça existe, et nous, on a cru que nous étions le centre du monde, non, eux aussi existent, et peut-être sont-ils eux le centre du monde. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire, je vais quitter mon monde et aller dans le leur? C'est pas évident. Et donc, on est dans une situation de psychologique assez terrifiante. On ne croit plus que son monde est le centre du monde. L'autre monde, on est tenté d'aller voir, puisqu'on a à peu près maintenant la preuve qu'il existe. On a envie d'y aller, mais pour faire quoi? Et on entre cette angoisse existentielle, justement, comme on l'appelle. C'est qu'on ne sait pas comment exister, où exister, avec qui exister, pourquoi exister. Donc tout ce qui tourne autour de l'existence. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ceci mène à la révolte? C'est pas évident. Ça mène à l'angoisse, à un malaise. Ça ne mène à la révolte que si on introduit de la morale là-dedans, c'est-à-dire qu'on se dit que le fait de manger sur une table, c'est mal. Alors que manger par terre, c'est bien. Bon, donc il faut mettre des qualifications comme ça, c'est bien, c'est mal, c'est moral, c'est pas moral, et ça c'est très compliqué, on sait pas le faire, en dehors de son univers, on sait pas le faire. Et puis, est-ce que la révolte, comme ça, intellectuelle, mène à une révolte physique ? Bon, nous sommes révoltés contre les valeurs du capitalisme et tout ça, mais est-ce une raison pour aller prendre des armes et aller tuer tous les banquiers ? Les capitalistes, ils sont où, les capitalistes ? Le consommateur est un capitaliste, puisqu'il alimente la machine capitaliste. Est-ce que je vais commencer par le tuer, lui ? Parce que lui est à côté de moi. Le banquier, j'ai aucune chance de le voir. Et puis même si je sais où il habite, il est tellement protégé que je n'ai pas accès. Donc voilà, alors on est coincé. Et l'étape de la révolte assumée et tout ça est un guet infranchissable. Je pense qu'il est infranchissable. Et la question qui donc est traitée dans le livre, alors si c'est oui, si c'est franchissable, est-ce qu'on peut faire une révolte, est-ce qu'une révolte individuelle est possible ? Alors on peut répondre oui. Si la révolte individuelle est possible, est-ce que la révolte collective ? Parce qu'on ne peut pas changer le monde seul. On peut changer son monde à soi. On ne peut pas changer le monde. Pour changer le monde, il faut que ce soit une révolte collective. Donc c'est une révolution, là, comme les printemps arabes ou les trucs comme ça, où c'est tout le peuple qui adhère à une idée, qui veut changer. Bon, je crois que quand le système totalitaire s'est fermé, c'est plus possible. Et d'ailleurs, George Orwell, qui m'a inspiré tout cela, lui conclut que c'est pas possible. Wilson et Julia, finalement, ils font toute la première étape, mais ils échouent, puisqu'à la fin, ils sont arrêtés et tués. Moi, je ne ferme pas la porte, j'ai laissé une possibilité que Hati fait son chemin et rencontre des gens comme Koa, comme Toz, plus tard. Bon, et puis il cherche la frontière. Alors, est-ce qu'il l'a trouvée ? Est-ce qu'il ne l'a pas trouvée ? Est-ce que... on ne sait pas parce que je crois que ce n'est pas intéressant de répondre à ces questions à ce stade-là. Hein, c'est pas intéressant ça. Si j'avais dit oui, il a trouvé la frontière, il est passé, il a trouvé d'autre côté des gens qui vivent je ne sais pas quoi, c'est aucun intérêt. Ou dire oui, bah, finalement il n'a pas trouvé la frontière, elle n'existe pas. Bon alors, écrire tout ça pour dire qu'on ne peut pas échapper à la distance, c'est aucun intérêt aussi. Donc c'est laissé. Il y a des questions pour l'humain qui. Il est dramatique pour lui d'y répondre. C'est vraiment un suicide que de répondre à ces questions. Il faut qu'elles restent des questions éternellement. Quoi.
Mais du coup, est-ce que vous iriez jusqu'à dire. Que votre roman est un appel à la dissidence, parce que dans la dissidence, il y a aussi quand même la notion de questionnement ouais. qui est très importante.
Alors, ça c'est le livre, donc il est.
Parce que vous êtes aussi un essayiste et vous écrivez aussi.
Oui, voilà. Donc, alors il y a le côté, on va dire immédiat. Bon, ça c'est, on est dans une fiction, une histoire qui pose des questions sur un conte philosophique, on va dire. Maintenant, réellement, nous, on vit aujourd'hui. Hein, et apparemment, le livre semble dire que l'Abistan est en train de se construire sur nos pieds. Par l'islamisme, le djihadisme, mais pas seulement. Il y a, prenons appui sur d'autres, l'économie pétrolière, sur le fonctionnement de la finance internationale, sur les relations internationales, et s'appuyant sur cela, l'Abistan est en train de se mettre en place. Puisqu'à un moment donné, on parle de bombes atomiques, sans le dire, hein, que le monde est vitrifié, c'est qu'il y a eu des guerres. On ne sait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on est face à un phénomène totalitaire rampant qui est là. Nous en sommes tous conscients, à tous les niveaux, partout, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas le qualifier. Alors, Oyola, c'est qui ? Si on devait dire aujourd'hui. Le maître d'œuvre, c'est quoi ? C'est Wall Street, c'est Yola, c'est Big Brother, c'est c'est un complot international comme certains disent impérialisationniste voilà donc et Abby c'est ce qui dirige cela c'est qui le fait est que nous sommes à peu près tous on ressent que une sorte d'abstinence est en train de se tisser autour de nous. On a de moins en moins de on est de plus en plus contraint au silence. Personne ne m'attend aujourd'hui, vous critiquez l'islam, vous êtes mort dans la journée, quoi. Vous êtes exclu de la société, vous êtes critiqué, insulté, vous perdez votre boulot, si vous êtes ministre, vous êtes renvoyé, si vous êtes... et ainsi de suite. Il y a plein de gens comme ça, il y a plein de sujets tabous. Et du coup, les gens, maintenant, avant de parler... Il tourne cette fois la langue dans la bouche hein, avant de prononcer un mot. Et donc, l'abstention sur ce plan-là est en transmettre. La coercition n'est pas seulement comme ça par cela. Là aussi, des aspects. Par exemple, elle fait de nous, elle nous force à être ce que nous sommes. Alors que nous, on n'a peut-être pas envie de vivre de cette façon-là. On nous force à être un consommateur. On dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Maintenant, qui ne mange pas 5 fruits, 5 légumes et fruits par jour? Mais tout le monde. On dit ne mangez pas trop sucré, trop. Mais tout le monde maintenant fait attention à cela. Donc on sent bien que des systèmes de coercition au deuxième degré. Et puis le troisième degré qu'on ne voit pas, qui ne s'exprime pas de ces façons-là, mais c'est par, d'une manière générale, la structuration de la société, et ainsi de suite. Et puis à des étages, c'est une fusée à 15 étages. Donc on est la coercition physique, le policier, le truc, vous dites un mot, vous avez un procès pour islamophobie, pour un truc. La publicité, qu'est-ce que vous pouvez attaquer? TF1, vous m'assommez avec votre télévision, j'ai pas envie de manger de légumes, enlevez-moi ça. Procès que vous allez perdre, évidemment. parce que donner de bons conseils, c'est une vertu, on va vous dire. C'est un bon conseil. Mais vous allez beau dire que vous ne cherchez pas les bons conseils. Vous ne cherchez rien du tout. Mais voilà. Mais au-delà, alors le troisième, encore, on arrive à l'imaginer, c'est l'ordre mondial hein, qui, à travers les banques, à travers les trucs. Mais au-dessus, on ne sait plus. Au-dessus plus, des structures. Est-ce que c'est des philosophes qui pensent et que leurs idées voyagent dans l'air et elles s'additionnent comme ça, pourquoi on aime la peinture? Qui nous a appris à aimer la peinture? C'est une mécanique mentale qui s'est mise au cours des siècles, qui fait que... Mais un chien, un chat, il regarde ça, c'est rien du tout, c'est une tache dans le mur. Et voilà, donc ça on sait bien que la question que je traite dans le livre et à laquelle je pensais et on y pense tous, ce nouvel ordre qui est en train de s'installer, qui va faire de nous comme ça hein, des abstinés totalement des automates, des robots. Est-ce qu'il sera de nature politico-financière, etc., etc.
Donc, il l'est déjà.
Il l'est déjà. Ou est-ce qu'il sera du type militaire? Voilà, c'est Pinochet, c'est le truc. C'est le régime de Saddam Hussein, de Kadhafi, et tout ça, c'est... Voilà, on recevait des ordres, on ne vous dit pas pourquoi. Ou est-ce qu'il sera du type religieux? Moi, je pense qu'il sera du type religieux parce que au jour d'aujourd'hui, aucun système de coercition ne tiendrait s'il ne phagocyte pas l'homme totalement de l'intérieur. S'il lui laisse un seul degré de liberté, la révolte est au bout. Et donc le système sera renversé. C'est comme le régime arabe, ils avaient beau être... la police est partout, tout le monde est surveillé, tout le monde... on bat tout le monde et tout, bon, voilà, ça a tenu, mais ça a fini par sauter. Par contre, dans le truc religieux, c'est... vous êtes transformé de l'intérieur. Donc la notion de révolte dans votre tête, et c'est égal blasphème. Donc vous n'avez pas envie de blasphémer, donc vous le... Alors que dans notre tête, au jour d'aujourd'hui, malgré toute la coercition, pour nous, révolte égale liberté. Je me révolte pour aller à la liberté. Je me révolte parce que je veux exister. Je ne veux pas être un numéro parmi d'autres, je ne veux pas être un robot. Mais le discours religieux, lui, va vous transformer de l'intérieur. Et donc vous serez heureux dans l'asservissement. Et lui peut donc... voilà, alors je prétends, la conclusion, c'est que le système qui se construit autour de nous est religieux. Alors, autour de l'islam, autour de... peut-être d'un mariage entre l'adoration de Mammon, comme on dit dans la Bible, il faut... est-ce qu'on adore Dieu ou Mammon, c'est le dieu de l'argent, hein, donc c'est... est-ce que c'est cette... ou est-ce que c'est peut-être aussi un mélange de différentes religions, peut-être les évangélistes avec l'islam, et qui pourraient peut-être, parce qu'ils sont tous les deux violents, totalitaires, et ils pourraient faire bon ménage. C'est possible. C'est possible, il suffit de remarquer comment... les islamistes qui ne respectent rien du tout semblent vraiment tout à fait avoir fait une sorte d'accord tacite ou réel avec les évangélistes. Les zones où travaillent les évangélistes, les islamistes ne viennent pas chasser sur leur terre. Et les évangélistes ne vont pas chasser sur les terres des islamistes. Ils le faisaient avant, mais ils ne le font plus. Donc il y a eu comme dans la division Est-Ouest, les Américains ont dit bon aux Soviétiques, aux Russes, bon, à partir de Berlin-Est c'est à vous, de Berlin-Ouest et là c'est à nous, l'Afrique, ben, on va se la partager, et là il semble qu'il y ait quelque chose comme ça derrière lesquels il y a comme des accords, voilà.
La mer commençait à l'horizon. On aurait dit que c'était dans le ciel qu'elle prenait sa source, et que de là, elle descendait vers la terre. Ce fut le premier constat que se fit Atti, et à mesure qu'il s'avançait vers elle, ce qui était une ligne d'horizon aérienne, indistincte et tremblante, se matérialisait, s'étendait, devenait masse d'eau colossale et vibrante qui occupait tout l'espace, le débordait et venait sur lui, telle une marée montante, pour s'arrêter in extremis à ses pieds. Il se sentait cerné. Impossible d'échapper à la fascination et à la terreur. La mer était la somme de tous les contraires. Il ne fallait que quelques secondes pour s'en convaincre, et l'on sentait alors très fort qu'elle ne pouvait en un instant basculer du tout au tout, du meilleur au pire, du plus beau au plus sinistre, de la vie à la mort. En ce jour, pour la première visite d'Atti, la mer était aimable, comme le ciel qui la couvrait et comme le vent qui jouait avec ses vaguelettes. Un bon signe. Il s'avança courageusement vers elle, jusqu'au bord où elle disparaissait dans le sable. Encore un pas, et le contact miraculeux se fit. Sous la pression de son poids, l'eau et le sable exsudaient entre ses orteils, les massant d'une façon plus que sensuelle. Mais qu'était-ce là ? Tout bougeait, tout tanguait. Il sentait le sol glisser sous ses pieds, et sa tête partir en vrille, pendant qu'une petite nausée lui retournait l'estomac. Mais en même temps, un merveilleux sentiment de plénitude se diffusait en lui. Il était en harmonie avec la mer, le ciel et la terre. Que demander de plus ? Il s'allongea sur le sable chaud, ferma les yeux, offrit son visage aux rayons du soleil et son corps aux embruns de la mer, et se laissa aller au rêve. Il se souvint de l'extraordinaire chaîne de l'Oua, de ses cimes, de ses gouffres vertigineux, et des cauchemars qu'ils avaient éveillés en lui, de la terreur à l'état pur, mais aussi un sentiment d'exaltation inspiré par l'incroyable majesté de ces lieux si durs, sortis du plus loin des temps. C'était là qu'un sentiment bouleversant de liberté et de force, inconnu jusqu'alors, était né en lui, et peu à peu, alors que la maladie le soumettait à la torture et décimait ses voisins, l'avait amené à la révolte ouverte contre le monde si oppressant et si lâche de l'habitant. La mer aurait sans doute produit d'autres prises de conscience, d'autres révoltes. Qui sait lesquelles ? Mais du coup, quand même, dans le roman, il me semble que c'est, entre guillemets, l'islam, quand même, qui serait visé davantage. Et on a pas mal de passages, pas mal de versets. Et je voulais revenir sur le statut de ces versets, parce qu'évidemment, je ne connais pas le Coran.
Évidemment, je ne pouvais pas me permettre.
Et je voulais savoir, est-ce que c'était des réécritures, est-ce que c'était inspiré des versets du Coran ou...
De la forme, évidemment, j'emprunte la forme, la forme de du verset, comme ça. Mais non, c'est pas. Ça aurait été un blasphème hyper, hyper dangereux que d'utiliser des versets du Coran pour dire, et les associer donc à l'absurde, à la dictature. C'est des versets inventés. Comme je ne pouvais pas dire Allah, c'est Yola, comme je ne pouvais pas dire que Abi, c'est Mahomet, etc. Et que le Kaboul, c'est le Coran. Et que la sainte la sainte fraternité
les frères musulmans c'était les frères musulmans
ce serait une oligarchie religieuse comme ça qui a un conseil des c'est comme les ayatollahs ou les trucs comme ça pour éviter l'accusation du blasphème direct. On peut toujours accuser de blasphème par analogie, par c'est pas tellement recevable en justice civile, c'est pas recevable. Il dit pas que il a pas dit que c'était Mahomet, il a habillé, il a le droit d'inventer des personnages. Donc ça il fallait pas faire ça. Et le livre d'ailleurs aurait raté son coup parce qu'il aurait été là réellement lu. Déjà comme ça, on considère que c'est un livre islamophobe. Si j'avais mis cela, donc ils auraient, à juste titre en ce moment, les gens auraient à juste titre dit que c'est un livre islamophobe. Ils auraient raison de le dire. Donc, ceci dit, je constate que d'abord, la date n'est pas fixée. Donc, 2084, c'est juste pour faire référence à. Je voulais que d'emblée, on associe cela, pour ceux qui connaissent, à George Orwell, pour éviter que, à un moment donné, on dise finalement, c'est un plagiat. C'est d'entrée de jeu, on en sait la couleur. C'est la réécriture de 1984, c'est pas un plagiat, c'est une réécriture de 1984. Ça, vous avez le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de plagier, mais vous avez le droit d'imiter. C'est toute la nuance, c'est là. Et donc, il fallait penser à ces choses-là. Est-ce que. Moi, je ne sais pas, quand je vois l'islam aujourd'hui, et ce que l'islam était il y a 10 ans, ce que l'islam était il y a 20 ans, il y a une évolution ultra rapide. Des concepts même. Le fond religieux est évidemment est le même, mais il est lu différemment. Par exemple, des versets... par exemple, on va dire qu'à peu près... dans tout le monde musulman où il y a un certain raidissement, on va dire, un certain militantisme, on va dire. Le Coran dit « mais quoi ?» C'est les sourates que le prophète a reçues quand il était à la Mecque, il était un simple citoyen qui entendait l'ange Gabriel lui réciter de belles choses. Et il ne lui récitait que des belles choses. La paix, la liberté, enfin bref, des choses comme ça, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle le Coran mécois de la Mecque. Et puis après l'Égypte, là, à un moment donné, comme du temps du Christ, trouble à l'ordre public, et qu'est-ce que c'est que ces troublions, qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher, nous sommes des polythéistes, à la Mecque, il n'y avait pas que des polythéistes, il y avait des chrétiens et des juifs. Mais nous, on a notre religion, qu'est-ce qu'ils nous chantent, celui-là, et ceci et cela. Alors donc on le chasse, parce qu'il trouble à l'ordre public, comme on l'a chassé Jésus. Et alors il va à Médine et là-bas se crée autour de lui des gens, s'installent autour de lui, ça forme un groupe, ça forme une armée et du coup quand on a une armée on fait des conquêtes. C'est plus la peine de convaincre les gens, il faut les conquérir, c'est tout, c'est plus rapide. Donc, voilà, ils font la conquête des tribus autour. Et là, le prophète, c'est drôle, l'ange Gabriel ne lui donnait que des orientations militaristes. Parce que là, il est chef d'État, il est général, c'est lui, il se bat lui-même, hein, donc avec le sabre, sur son cheval. Il prêche aussi à la mosquée, mais il prêche de manière guerrière. Le général, il faut truc, il faut réduire les idolâtres, etc. Et il faut chasser les trucs, il faut ceci, il faut cela. Donc et c'est deux discours totalement différents. Et bien, au cours de l'histoire, le balancier, les périodes pacifiques, les gens ont tendance à réciter surtout les versets mécois, les sourates mécoises. Voilà, c'est sympathique. Et puis quand voilà, les périodes difficiles où il y a des révoltes, il y a des pendant la colonisation pour résister à la colonisation ou après pour résister aux dictateurs et à l'avancée du communisme et tout ça, on utilise la partie plutôt de Bédine, qui est un discours c'est le discours de la CGT, on va dire, voilà. Il faut retirer la loi, il faut ceci, il faut faire grève, il faut... Et voilà. Alors, donc si vous prenez deux périodes historiques, l'une, tout va bien, et vous écoutez courant, et puis la période, je ne sais pas, un siècle plus tard, où là, le monde arabo-musulman est en... face à des colonisations, des trucs, tout ça, il tient des... Vous dites, c'est pas le même courant ? Si, c'est le même courant. Seulement, les chapitres gentillets, on les met de côté, là, pour le moment. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. On le lit, les gens qui sont comme ça, dans le raidissement, ne lisent que les versets durs, quoi. Il faut tuer, il faut découper la main, il faut... Et ils les appliquent. Et puis ceux qui tenaient le discours gentillet du Coran, eh ben, ils sont considérés comme des imbéciles qui n'ont rien compris. Il faut. Voilà. Et en plus, les mentalités, parce que bon, ça c'est le livre, donc on peut le lire dans un sens ou dans l'autre, mais les gens eux-mêmes évoluent. Les Marocains d'aujourd'hui, les Marocains d'un siècle, c'est le jour et la nuit. Donc ils ne donnent pas le même sens aux mots. Voilà, il y a une évolution dans leur esprit qui fait que, d'une manière générale, on vit sa situation, son statut de musulman, on le vit différemment. Oui. Et donc c'est pour ça que je dis sur un siècle. Alors et la nouveauté, c'est que si pendant plusieurs siècles l'islam a été, c'est une tautologie de dire ça, l'islam a été la religion des musulmans. De plus en plus, l'islam devient la religion des convertis. Donc c'est des gens qui viennent d'une autre civilisation. Ils sont chrétiens, ils sont juifs, ils sont athées, ils sont bouddhistes, hindouistes, etc. Et qui se convertissent à l'islam. Donc ils amènent un soubassement culturel qui est totalement différent. Le chrétien, le français aujourd'hui qui se convertit à l'islam, vient à l'islam en apportant quand même ce qui est français en lui, dans une certaine notion notion d'ordre, les notions de démocratie, de la civilité, il ne peut pas évacuer ça, même s'il le veut, il ne peut pas. Donc, et tout ça se mélange de manière assez imperceptible et ça évolue. Les gens, par exemple, ne se rendent pas compte que là-bas au Daesh, il suffit d'arriver pour voir que ça, c'est des musulmans qui viennent plutôt d'Afrique du Nord, ça, c'est des machins qui viennent plutôt de Syrie, et ceux-là, viennent plutôt d'Europe, parce qu'ils n'ont pas du tout le même comportement, pas du tout le même style, le même ton, le même. Voilà, c'est pour ça que pour moi c'était difficile de. Voilà, les choses vont évoluer sur un siècle, comment, j'en sais rien.
Mais justement, pour terminer cet entretien, on a le pouvoir de la littérature qui est à cet endroit-là, justement, pouvoir retracer ces différents itinéraires, ces différents parcours. Et vous n'êtes évidemment pas le seul, même s'il n'y en a pas beaucoup d'intellectuels, justement, qui s'insurgent. qu'on trouve ça. Je pense justement, par exemple, au travail d'Adonis dans le livre d'Al-Kitab, qui essaye de retrouver un peu l'islam, ce qu'il appelle l'islam heureux, pour montrer que finalement, cet islam rigoriste et violent n'a pas toujours été un état de fait.
Oui. Ah oui, absolument. Bah, Adonis est dans son rôle. Lui, c'est un poète. Évidemment, de par la conformation de son cerveau, et il voit cet islam qui, évidemment, l'islam des Lumières, l'islam pacifique et tolérant dont on parle. Et il souhaite que les choses soient comme ça. Mais ceux qui sont au pouvoir, ceux qui exercent du pouvoir, cet islam ne les intéresse pas parce qu'on ne peut pas gouverner avec de bons sentiments, tout simplement. C'est qu'on gouverne, il faut. L'État est un monstre froid, donc on ne peut pas mettre dans les rouages de l'État des choses comme ça, gentillettes. Il faut de la coercition. L'État fonctionne par la coercition. Tous les groupes, d'une manière générale, humains, y compris dans le couple homme-femme, il faut un minimum de coercition l'un sur l'autre pour que la chose fonctionne, sinon chacun vit sa vie de son côté au détriment de l'autre. Et c'est toute la difficulté. Alors, donc c'est l'idée, moi je pense, qui est recherchée par les uns et les autres, que ce soit Kemal Daoud, Adonis, mais aussi beaucoup d'autres.
La culture est limitée.
Hein?
La culture est limitée sur ces points-là.
Oui, voilà. Tous ceux qui sont sur cette voie-là, c'est surtout peut-être d'ouvrir le débat. Voilà. C'est-à-dire que l'islam a toujours été, on va dire, la propriété des musulmans. Et donc eux seuls pouvaient, eux ils n'en parlaient pas, ils s'interdisaient d'en parler, donc ils ne faisaient que pratiquer. Or maintenant c'est un sujet universel, l'islam est partout. Donc il faut, si je ne sais pas, au Maroc, pays traditionnel, on applique le Coran comme il est, parce que c'est une société traditionnelle et ça convient, est-ce que c'est le même islam qu'on va appliquer à Paris, où les gens ne s'habillent pas de la même manière, ne mangent pas de la même manière, ne vivent pas de la même manière? Est-ce qu'il faut amener, est-ce que c'est les gens doivent devenir musulmans, ou est-ce qu'il faut faire évoluer la compréhension qu'on a de l'islam pour le lire différemment en fonction du contexte, recontextualiser la croyance dans son monde, pas en théorie comme ça. Voilà.
Mais écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien.
Merci.
C'était Raphaël pour Transistor.